France Musique.
Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. Fils instruit d'un paysan aisé, Mao devient après ses études bibliothécaire à l'université de Pékin. Il participe en 1921 à la fondation du Parti communiste chinois par Chen Duxiu et une poignée de marxistes, désireux, comme le gouvernement nationaliste du Kuomintang, de libérer le pays de l'emprise des seigneurs de la guerre et des impérialistes. Après la rupture avec le Kuomintang en 1927, Mao organise des bases révolutionnaires paysannes dans la province du Yangtze, où est fondée une république soviétique chinoise, dont il devient président en 1930. Désavoué par le parti, puis délogé du Kuomintang, il se replie vers le nord, menant la longue marche de 1934 à 1935, pendant laquelle il est enfin reconnu comme chef du parti. De nouveau allié au Kuomintang dans la lutte contre les Japonais de 1937 à 1945, il mène ensuite contre lui la seconde guerre civile, à l'issue de laquelle est proclamée le 1er octobre 1949 la République populaire de Chine. Pour Mao Tse-tung, la fondation de la République populaire de Chine est indissociable de la création d'une nouvelle culture chinoise construite à partir d'un processus de sélection opéré en amont au Yangtze et à Yan'an. Le nouveau Yanggi, danse de l'émancipation ou de lutte, joue le rôle de propagande. Cette danse, dite de la révolution, tient une place prépondérante dans cette nouvelle culture. Il faut en effet transformer les éléments relevant de la tradition afin de les faire correspondre à des pratiques révolutionnaires. Éduquer l'ensemble de la population chinoise aux nouvelles normes et valeurs de la nouvelle société. Dès 1948, la libération des grandes villes telles que Pékin ou Shanghai favorise les représentations du nouveau Yanggi et des tambours autour de la taille déferlent comme une grande vague sur tout le pays. Mais aussi les villes et villages assistent par milliers à des pièces de théâtre où les troupes donnent à voir la vie quotidienne du peuple. Un passé cruel y est dénoncé, la promesse d'un avenir éclate. Les premières années du nouveau gouvernement transforment radicalement les activités liées à la culture et à l'art, populaire ou élitiste. Durant toute la période de consolidation du nouveau régime jusqu'aux années 1960, Mao Tse-tung établit une rupture radicale avec l'histoire en s'inspirant de Marx. Et il reprend le concept de l'héritage critique de Lénine selon lequel il s'agit de rendre accessible à tous la culture et non d'en inventer une nouvelle, pour construire sa dialectique entre la politique et la culture. Il n'est pourtant pas question pour lui d'occidentaliser ni de soviétiser la culture, mais au contraire, donner à la culture chinoise sa particularité. Ainsi déclare-t-il, « Toute culture est le reflet, dans l'idéologie, de la politique et de l'économie d'une société donnée. Quant à la nouvelle culture, elle est le reflet, dans l'idéologie, de la nouvelle politique et de la nouvelle économie, et elle est à leur service. » La culture de la nouvelle démocratie est une culture nationale. Elle combat l'oppression impérialiste et défend la dignité nationale, l'indépendance du peuple chinois. Elle appartient à notre peuple et porte nos caractéristiques nationales. La culture chinoise doit avoir sa forme propre, c'est-à-dire une forme nationale. Nationale par sa forme, de démocratie nouvelle par son contenu. Telle est notre nouvelle culture d'aujourd'hui. Mais selon Mao, il n'y a pas de construction sans destruction. Pour réorganiser la société, il faut donc accélérer la destruction de la vieille idéologie, de la vieille culture, des vieilles coutumes et des vieilles habitudes bourgeoises. Il faut adopter la nouvelle idéologie, la nouvelle culture, les nouvelles coutumes et les nouvelles habitudes du prolétariat. Alors, tous ceux qui prônent l'admiration de Confucius et l'étude de ses canons, ceux qui prêchent la vieille éthique et les vieilles idées et se prononcent contre la nouvelle culture et les nouvelles idées, constituent un bloc réactionnaire. Il faut briser. On ne construit pas de nouveau sans briser l'ancien, déclare Mao. On n'ouvre pas la voie au nouveau sans barrer la voie à l'ancien. On ne fait pas avancer le nouveau sans arrêter l'ancien. La culture traditionnelle est dès lors constamment bafouée, reniée et partiellement détruite, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment réformée pour jouer un rôle positif dans la mémoire communiste. Seule la politique contrôle la culture, et cette dernière devient ainsi un véritable outil de propagande et d'éducation politique appliqué à l'ensemble du pays. Le théâtre et la musique traditionnelle se retrouvent ainsi rapidement au centre d'un débat politique. Le théâtre doit promouvoir le patriotisme et l'héroïsme révolutionnaire, déclare en mai 1951 le premier ministre du Conseil des Affaires d'État, Zhou Enlai. Il doit contenir les thèmes de l'opposition à l'agression et à l'oppression, de l'amour, de la liberté et du travail et du patriotisme, qui doivent être encouragés, tandis que ceux préconisant la morale féodale, la servilité, l'adultère, la superstition et la cruauté doivent être combattus. Ainsi, entre 1950 et 1952, certaines thématiques de pièces sont bannies, d'autres simplement interdites. Telles la pornographie et les pièces de théâtre lubriques, celles qui montrent la cruauté et le meurtre, ou celles qui insultent les minorités nationales. L'année 1956 marque un tournant dans la vie de Mao, comme dans le destin de la Chine populaire. En février, le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique condamne le culte de la personnalité de Staline. Craignant que cette attitude n'ouvre la voie à des attaques contre sa propre personne, qui est alors l'objet d'un culte du même type, Mao désapprouve le rapport de Nikita Khrouchtchev, qui dénonce publiquement les erreurs passées du régime stalinien et propose une plus grande liberté intellectuelle. Mais le 8e congrès du PCC, en septembre 1956, confirme les pires craintes de Mao. Le numéro 2 du parti, Liu Shaoqi, et le nouveau secrétaire général, Deng Xiaoping, attaquent le culte de la personnalité, font l'éloge de la direction collective et surtout font disparaître des textes du parti toute référence à la pensée de Mao. Ce dernier conserve ses fonctions, mais il est clair que le congrès s'est fait contre lui. Dès lors, toutes les initiatives politiques qu'il va prendre de 1957 à 1966 sont autant d'efforts pour contrecarrer la ligne établie par le 8e congrès. Le 27 février 1957, Mao prononce son discours « De la juste solution des contradictions au sein du peuple » où il attaque la bureaucratie communiste et demande aux intellectuels, comme aux membres des partis alliés, de critiquer le Parti communiste chinois. La campagne des sans-fleurs est alors lancée sur une phrase inspirée du Zhuangzi, ouvrage fondamental du taoïsme, « Que sans-fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent ». Pour la première fois depuis 1949, Mao met en cause un parti dont il est le président. Après quelques hésitations, les critiques fusent de toutes parts contre le PCC, mais aussi contre Mao lui-même. Une grande partie des intellectuels profite ainsi de l'occasion qu'il leur est donnée pour s'exprimer sur la nature du gouvernement et sur le rôle du parti dans l'édification de la nouvelle Chine. Leurs critiques, adressées sous forme de manifestes et de journaux muraux, concernent essentiellement le contrôle idéologique qu'ils subissent depuis une décennie, qui modèle leur production scientifique ou culturelle, et qui ne laisse aucune place à une liberté créatrice ou à une autonomie de pensée. Durant 6 semaines, la campagne se déchaîne et ébranle le parti et l'armée. Mais la tolérance a ses limites. Mao reprend ses sans-fleurs en distinguant les fleurs parfumées et les fleurs vénéneuses. Dès lors, la répression s'organise et une épuration est entreprise à l'égard de tous ceux qui ont pris au pied de la lettre la directive de Mao Tse-tung. La presse, l'université, l'administration, les petits partis non communistes et de nombreux intellectuels sont touchés par l'épuration dite anti-droitière. Les premières purges ne se font pas attendre. Plus 1 million d'intellectuels sont dégradés, exilés ou incarcérés.
À réécouter sur francemusique.fr.